Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons le chien LOL à Cahors. Il est capable d'aider des victimes à libérer leur parole. Ensuite, on organise une soirée piano. Ça, c'est à Caen que ça se passe. Et enfin, on va tester des cocktails gélifiés mis au point par deux Toulousains. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce jeudi 27 mars. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
On va s'arrêter sur les chiffres de la sécurité routière. La hausse de la mortalité se confirme.
Plus 17% en février, après déjà une hausse en janvier. Et ce, après un recul historique l'année dernière en 2018.
Le rapport sur la dépendance est arrivé. Parmi les 175 mesures, propositions, la priorité sera notamment donnée au maintien à domicile.
On va entendre une aide à domicile qui raconte son quotidien et son salaire aussi.
L'entrée dans le grand âge des générations du baby-boom nécessitera 35% de dépenses publiques supplémentaires à l'horizon 2030.
Il n'y aura pas un impôt supplémentaire, c'est une porte qui est clairement fermée, a dit le ministre de la Santé dans la foulée.
Non, les directeurs d'école ne vont pas disparaître dans le projet de loi sur l'école.
Là, c'est Jean-Michel Blanquer qui parle. Disons que rien ne se fera sans l'accord des intéressés sur le terrain, précise le ministre de l'Éducation.
Une association regroupe les 42 plus belles baies au monde, parmi elles le Mont Saint-Michel et depuis hier, la Ciotat.
Alors on va à la Ciotat, après ce label décerné par les membres de 27 pays.
Bienvenue à tous à la Ciotat et partout en France avec Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farouf sur France Bleu.
On a encore en tête la baisse historique de la mortalité routière l'année dernière, mais l'année 2019 a mal commencé.
Plus 3,9 en janvier et 17,1 en février, c'est le chiffre qui est arrivé dans la matinée, Louis-Valentin Lopez.
253 personnes tuées sur les routes en février, c'est 37 de plus qu'en février 2018. Plus de morts, davantage d'accidents corporels aussi, plus 22%, une augmentation du nombre de blessés. La sécurité routière détaille la hausse de la mortalité concerne principalement les jeunes, les 18-24 ans, les seniors de plus de 65 ans, les piétons, les cyclistes aussi, 18 personnes mortes alors qu'elles faisaient du vélo. Une mortalité des cyclistes en février jamais vue depuis 10 ans. La tendance est préoccupante car janvier 2019 faisait aussi figure de mauvais élèves, donc avec une hausse de presque 4%. Pour la sécurité routière, ces chiffres sont notamment dus à la dégradation des radars fixes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Des dégradations qui se traduisent par, je cite, un relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux.
Louis-Valentin Lopez et la hausse de la mortalité sur la route.
La déléguée générale de l'association Prévention Routière déplore évidemment cette évolution qui va dans le mauvais sens.
Anne Lavaux rappelle qu'il ne faut pas oublier la mesure sur les 80 km/h. On n'a pas pris le temps de bien mesurer son efficacité.
Il faut aussi se rappeler qu'en février 2018, vous vous souvenez, on était en plein débat sur ce 80 km/h. Ça déchaînait énormément de passions et de commentaires. Et donc, cette phase de surinformation sur le sujet avait fait que déjà les Français avaient commencé à réduire leur vitesse sur la route. Comme la mesure n'a pas eu le temps de démontrer son efficacité, en termes de comportement routier, il faut environ une génération pour que les choses soient comprises et non plus vécues comme une sanction ou une privation de liberté. Il fallait à minima que cette mesure puisse vivre 2 à 5 ans, pour nous c'est plutôt 5 ans, de manière à démontrer son efficacité. Chacun est reparti avec ses vieilles habitudes et est reparti avec une augmentation des vitesses.
Anne Lavaux de l'association Prévention Routière.
C'est un rapport très attendu, comme l'étaient les précédents d'ailleurs, celui de la dépendance remis au gouvernement aujourd'hui.
L'entrée dans le grand âge des générations du baby-boom nécessitera 35% de dépenses publiques supplémentaires à l'horizon 2030. Le rapport préconise d'embaucher 80 000 professionnels.
Et il faut avoir un ou deux chiffres en tête pour parler de la dépendance.
En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux en France que les moins de 20 ans. En 2050, la population française comptera 3 fois plus de personnes de plus de 85 ans.
L'une des pistes qui revient régulièrement sur la table, c'est de favoriser au maximum le maintien à domicile. Mais pour ça, il faudrait revaloriser les métiers d'aide à domicile.
Cathy Sabordi travaille dans une association d'aide à domicile à Limoges.
On demande à ce que les personnes restent chez elles avec les moyens que l'on peut donner. Sauf qu'il faut reconnaître que les personnes qui interviennent à domicile, c'est un métier qui est difficile au point de vue physique et mental parce que on attaque le matin souvent de fois avec des levées, des toilettes. Qui dit toilette dit habillage. À la suite de ça, il y a les petits déjeuners à préparer. Tout leur mettre à côté d'eux pour qu'ils soient le mieux possible et tout ça en temps limité, c'est-à-dire les 3/4 du temps en 1 heure. De toute façon, c'est un métier, si ça ne vous plaît pas, si vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas rester dedans. C'est pas possible. Il faut vraiment un énorme dévouement. Énorme. Et on peut être appelé à maintes et maintes reprises et on est très mal payé. Faudrait qu'on soit reconnu à tous les niveaux et surtout au niveau salaire.
Cathy gagne 1300 euros net par mois. Elle a 15 ans d'ancienneté. C'est Nathalie Colle de France Bleu Limousin qui l'a rencontrée.
Emmanuel Macron est à Angers pour échanger avec des élus. C'est l'un des derniers déplacements du président dans le cadre du grand débat.
400 à 500 manifestants sont rassemblés dans le centre de la préfecture du Maine-et-Loire pour accueillir le chef de l'État et plusieurs ministres.
Et à propos de ministres, trois font leur carton en ce moment.
Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi qui vont mener des batailles électorales aux européennes et aux municipales.
Aux municipales, mais c'est l'année prochaine.
Oui, c'est un peu loin. C'est ce que pensait d'ailleurs Mounir Majoubi. Majoubi, qui est au numérique.
Je pensais que du petit point de vue que j'avais, moi j'ai pas la vue sur toute l'image, c'est le président qui a vu surtout, mais de mon petit point de vue, je pensais que c'était mieux plus tard. Le président, qui lui a une vue plus globale, a dit « Écoutez, je pense les garçons que c'est mieux maintenant, ça clarifie les choses, et donc c'est comme ça que c'est arrivé hier. »
Donc les garçons s'en vont et on va découvrir d'ici lundi les remplaçants pour les affaires européennes, le poste de porte-parole du gouvernement et pour le numérique.
On a entendu ces derniers temps des écoles où des parents d'élèves s'inquiétaient de la disparition possible du directeur de l'établissement du fait des regroupements école-collège prévus dans la réforme portée par le ministre de l'Éducation.
Ça restera minoritaire, a dit ce matin Jean-Michel Blanquer, et uniquement quand il y aura consensus sur le terrain.
C'est juste un outil dans une boîte à outils, c'est une possibilité, ça restera sûrement très minoritaire, et je le dis tout de suite, cette formule sera faite là où il y aura du consensus local. Donc là où les professeurs, la communauté éducative et les élus locaux auront envie de ça. Simplement, c'est toujours pareil, il y a des voix qui se sont un petit peu développées pour essayer de faire croire qu'on allait faire ça partout de manière imposée. Certainement pas. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais prêt au Sénat dans la lecture qui sera faite, dans l'examen qui en sera fait très bientôt, à y ajouter les éléments qui rassureront, puisque le but n'est évidemment pas d'affaiblir l'école primaire d'une quelconque manière. Je n'arrête pas de dire que ma priorité, c'est l'école primaire.
On a dit que ça allait supprimer les postes de directeurs d'école primaire.
Non, certainement pas, c'est tout le contraire. Mon but est de renforcer les directeurs d'école. Simplement, il y a plusieurs façons de le faire. Celle-ci en est une, mais il y avait évidemment d'autres. Et si un directeur d'école, si une équipe, plus le directeur, n'ont pas envie d'une chose comme ça, ils ne le feront pas.
Le ministre de l'Éducation avec Alexandra Ben Saïd ce matin.
Le cardinal Barbarin est sous la pression d'une partie de son diocèse, malgré son retrait, depuis sa démission refusée par le pape.
Une cinquantaine de prêtres du diocèse de Lyon s'est réunie il y a deux jours. Le vicaire général Yves Baumgarten, qui conduit les affaires courantes, estime que ce retrait ne peut être que temporaire.
Pour la première fois, un prêtre du diocèse de Lyon demande publiquement la démission de celui qui a été condamné pour non-dénonciation d'actes pédophiles.
Pour Michel Raquel, un des prêtres du diocèse, cela doit passer par une démission pure et simple du cardinal Barbarin.
Le père Baumgarten prend vraiment conscience en fait, de la difficulté actuelle de la gestion du diocèse, puisque la situation est quand même incroyable d'avoir un évêque qui se retire, enfin qui dit s'être retiré, et puis un pseudo-administrateur diocésain, et puis deux évêques auxiliaires. Enfin, la situation est quand même un peu difficile. Donc pour le bien de l'Église, même si c'est dur pour lui, je pense qu'il faut quand même que lui-même accepte de tourner la page, c'est-à-dire de tourner sa propre page. Oui. De partir vraiment.
Le vicaire général de Lyon, qui assure l'intérim, a demandé une entrevue en urgence à Rome. Il devrait être reçu la semaine prochaine au Vatican.
Quoi de neuf au Royaume-Uni ?
Alors on ne dira pas que ça se complique, car ça on l'a déjà dit une bonne dizaine de fois. Disons que Theresa May a abattu l'une de ses dernières cartes, la promesse de démissionner si son accord de sortie de l'Europe est adopté. Sinon, les députés britanniques ont voté contre 8 scénarios alternatifs.
Le Venezuela est de nouveau plongé dans le noir depuis 3 jours, suite à une nouvelle panne d'électricité. Les écoles et les administrations sont fermées.
Le pays avait déjà subi une coupure entre le 7 et le 14 mars et il n'y a pas de date de retour à la normale pour la coupure actuelle. Le président Nicolas Maduro accuse des terroristes d'être à l'origine de la nouvelle méga-panne.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est un détour par Lyon et Paris, l'une des deux équipes après le quart de finale de la Ligue des Champions féminines. On va aussi se poser dans l'une des plus belles baies au monde. La Ciotat entre dans le club des 42 plus belles baies, avec, excusez du peu, la baie d'Along au Vietnam, celle de San Francisco ou encore la baie du Mont-Saint-Michel.
C'est le nouveau directeur de l'Office du tourisme qui a postulé après avoir regardé par la fenêtre de son bureau.
Je suis arrivé en poste, moi, il y a un an ici. 10 jours après mon arrivée, je regarde par la fenêtre de l'office du tourisme, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 5 dauphins qui étaient en train de sauter dans la baie devant mon bureau. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, c'est vraiment magnifique, il faut absolument qu'on puisse participer à cette association que je connaissais, des plus belles baies du monde. Et ils sont venus début mars visiter la Ciotat et se rendre compte qu'on était une véritable baie qui reposait sur un trépied, le trépied du développement économique avec le chantier naval, le développement touristique et en plus une vraie vie. Et donc ces trois critères avec la préservation de l'environnement, avec le parc des Calanques, ils nous ont coopté pour qu'on rentre dans ce club des 42 plus belles baies du monde.
Alors que pensent les habitants de la Ciotat de cette nouvelle distinction? Vous en avez rencontré quelques-uns, Fabien Ledu?
Des baies, je n'ai pas trop vu, mais enfin, celle-là, elle est pas mal. Je la vois tous les jours, c'est ça. Il faut aller faire un tour derrière, là, partout, là. C'est magnifique. Je n'en partirai pas.
Je ne connais pas les autres, donc je ne peux pas. Si, il faudrait que je les visite toutes pour pouvoir avoir un élément de comparaison. Mais c'est une baie intéressante, parce qu'elle est très bien abritée, elle est jolie. Mais la plus belle baie du monde, si c'est pour accueillir des super géants de la croisière pour Blériot et compagnie. Ce qui se passe à Marseille, bon, c'était le camp quand même.
Elle n'a pas fini de nous étonner, la Ciotat. À mon avis, hein, ça va prendre le dessus sur Cassis, j'en suis persuadé, moi.
Ça donne pas envie d'aller regarder le paysage à la baie de la Ciotat, Frédéric?
Ah si, évidemment, mais la baie d'Along au Vietnam aussi, pourquoi pas.
Oui, ou la baie du Mont-Saint-Michel.
Voilà.
Ou la baie de San Francisco.
Exactement. Bon, on va pas toutes les faire. On passe au sport. Lyon poursuit son aventure européenne en Ligue des Champions féminines. Et pour Paris, c'est fini.
Les Lyonnaises se sont imposées à Wolfsburg 4-2. Les triples tenantes du titre n'ont pas tremblé en Allemagne. Ce qui fait la grande fierté de leur président Jean-Michel Aulas.
C'est quelque chose d'inimaginable, jouer 10 demi-finales de Champions League. Donc il y a une immense fierté qui vient. C'est un grand moment de bonheur et de plaisir. Je les ai félicités et je leur ai dit qu'on les aimait toutes, quoi. Et tous les supporters sont amoureux de cette équipe qui est exceptionnelle, car elle sait se remettre en cause. Dans la difficulté, elle résiste, elle courbe les chines et puis elle repart de plus belle. Et savoir se remettre en cause en football quand on a tout gagné, c'est des vertus que l'on rencontre pas souvent.
Alors en demi-finale, les Lyonnaises vont rencontrer Chelsea qui a sorti le PSG hier soir.
Les Parisiennes l'ont emporté 2-1, mais ça n'a pas suffi après la défaite 2-0 match aller. Et c'est un but encaissé en toute fin de match qui a gâché la fête.
Aïe, ouais. Comme les garçons en Ligue des Champions face à d'autres Anglais. Voilà une indication pour la suite du programme du Nord en France.
C'est le compositeur Armel Dupas qui joue, il sera avec nous tout à l'heure avec une proposition.
Le Home Piano Live, il vient jouer chez nous à la maison, il nous suffit d'inviter quelques amis, on découvre tout à l'heure. Armel Dupas, tout à l'heure, au piano, sur France Bleu, dans Une Heure en France.
Le Home Piano Live, on va vous raconter, il vient jouer chez nous à la maison, il nous suffit d'inviter quelques amis, on va découvrir. Mais avant le piano à la maison, on va s'intéresser à l'histoire incroyable de LOL le chien, et puis aussi à des cocktails en capsule. Oui, je sais, ça surprend.
Ouais, et j'ai l'impression que tout est assez incroyable aujourd'hui. Voilà la météo.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.